Cours de philosophie première par le Père Philippe H. Saint-Jaudard, le 6 novembre 89.
En quoi est l'être? Faut se poser vraiment la question. Et comprendre qu'il n'y a pas de solution. Parce que si vous ne vous posez pas la question, vous resterez matérialiste. Parce que le climat dans lequel on est un climat matérialiste. Tant par le point de vue de l'efficacité, du primat de l'efficacité, du primat de la science, positivisme, et le point de vue psychologique, quand il n'est pas assumé par ou par la philosophie ou par la foi, nous fait retomber nécessairement dans le point de vue du conditionnement. Et le conditionnement est radicalement un conditionnement de la matière. On est conditionné par notre corps, c'est bien évident. Depuis la plus tendre enfance, j'étais conditionné par le biberon. C'est l'aliment. L'aliment nous conditionne terriblement. Et vous voyez, au noviciat, on est sevré d'une quantité de choses. Le sevrage du noviciat fait que l'aliment redevient une chose importante, alors qu'on l'avait complètement oublié dans sa vie. C'est très curieux. Parce qu'il faut cette purification de tout. Et c'est la purification de la cause matérielle est une purification qui est très très radicale. C'est la purification du fondement. Toute la philosophie moderne est une philosophie du fondement. Foucault, la méthode archéologique, c'est le fondement. Les archéologues, qui peuvent être de très grands savants, qui peuvent être des artistes, le père Devaux, que j'aimais beaucoup, dominicain, qui était un très bon archéologue à Jérusalem. Et le père Devaux le sentait très bien, ça. Il sentait très bien que la méthode archéologique, si on ne fait pas grande attention, est une méthode qui nous conduit au fondement, et donc qui matérialise tout. La méthode exégétique, si on n'est pas très attentif et si on n'est pas un théologien constant qui remonte la pente, nous fait toujours revenir vers le primat de la potentialité. Dans l'ordre du devenir, ce qui est premier, c'est la puissance. Et la puissance conduit à la matière. C'est très intéressant, vous voyez, de noter ce qui est dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre culture. Pas en Afrique. L'Afrique centrale, l'Afrique dans ce cas-là de plus profond, parce qu'il y a encore un point de vue religieux qui demeure. Mais la sécularisation telle qu'on la vit en Europe, cette sécularisation est une sécularisation qui conduit à un primat de la matière. Et donc, si on n'est pas très attentif, on retombe dans un point de vue matérialiste. Alors, comment guérir de ce matérialisme? On peut guérir de ce matérialisme par la foi, c'est évident. L'Esprit Saint n'a pas besoin de la métaphysique. Mais l'Esprit Saint aime qu'on coopère aux purifications profondes que lui réalise par le point de vue de l'amour, par les dons du Saint-Esprit. La béatitude des cœurs purs nous purifie radicalement du matérialisme. Ça, c'est sûr. Il ne peut plus y avoir un primat du sensible. Primat de l'amour et de l'amour divin dans ce qu'il a de plus fort. Mais l'Esprit Saint veut qu'on coopère. Et cette coopération, elle se fait radicalement par le point de vue de la recherche de l'être. L'intelligence est ordonnée premièrement à l'être. Ça, il faut le découvrir. C'est là où on comprend que les études métaphysiques, spéculatives, ne sont pas indifférentes à notre vie spirituelle, à notre vie contemplative. Quand on les considère comme indifférentes à notre vie contemplative, ça prouve qu'on n'a pas compris cette coopération de l'Esprit avec l'Esprit Saint. C'est important pour nous, ça, de coopérer avec l'Esprit Saint. On coopère toujours très maladroitement, c'est évident. Mais l'Esprit Saint aime qu'on coopère, même si on coopère bêtement. Vous voyez, une mère de famille qui fait la cuisine, elle a une petite fille à côté d'elle, sa petite fille à côté d'elle, qui a 10 ans, elle la fait coopérer. C'est un gâteau de sauce merveilleux, qui met du sel à la place du sucre, mais ça n'a pas d'importance. Qu'une espèce d'importance. Elle coopère. Elle ne lui dira pas, mais reste sage, ne fais rien, reste là, pas du tout. Si elle est une bonne éducatrice, elle dira, coopère. Et l'enfant coopérera. C'est cette coopération que l'Esprit Saint nous demande. Et cette coopération, l'intelligence qui doit s'éveiller. L'éveil de l'intelligence se fait par la métaphysique. Par la philosophie, mais spécialement par la métaphysique. Cette parole d'Aristote, on fait de la métaphysique pour comprendre ce que c'est que l'intelligence et Dieu. C'est très beau, ça. C'est très grand de voir qu'un païen dit ça. Alors, la grande question pour se délivrer du matérialisme radicalement, c'est en quoi est l'être ? Vous n'êtes jamais posé la question, j'en suis sûr. En quoi est l'être ? À l'interrogation, en quoi on découle la matière ? En quoi notre corps ? En quoi notre sensibilité ? Tout l'aspect de la science biologique, la matière vivante, c'est la matière vivante. Et vous voyez, la pente terrible en biologie, c'est de ramener le vivant au physique. Et la plupart, je crois que c'est à peu près 70%, je crois bien, des biologistes aujourd'hui, surtout en Amérique. La plupart des biologistes sont réductionnistes. C'est-à-dire, ils ramènent la philosophie du vivant à la philosophie de la matière. Il y en a très peu qu'on appelle les spiritualistes. Ils disent, non, il y a dans la vie quelque chose d'unique. Et c'est très curieux. C'est du côté de la Russie, plus. Parce que peut-être qu'ils voient mieux les dégâts d'un matérialisme absolu. C'est pas moi qui dis ça, c'est un grand savant celui qui a lancé l'Institut de la vie. Et c'est lui qui me dit ça comme chiffre. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir ça, parce que ça tâte le pouls, et on voit très bien comment une science biologique qui devrait nous conduire à l'esprit, pas du tout, nous ramène à la matière. C'est impressionnant, du reste, de voir que les lois physiques se retrouvent dans le vivant. Mais c'est pas parce que les lois physiques se retrouvent dans le vivant qu'on doit ramener le vivant à la matière. C'est deux choses tout à fait différentes. C'est par la matière qu'on mesure. C'est par la quantité qu'on mesure. Alors on a la tentation d'identifier ce par quoi on mesure et ce qui est mesuré. C'est la grande tentation du néoplatonisme. Alors, on voit très bien qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va plus. C'était un physicien de Lausanne qui me disait ça, et il m'avait beaucoup touché, parce que c'était intelligent. Il m'avait demandé de faire un petit exposé à ses étudiants sur les voies d'accès à l'égard de l'être premier. C'était pas commode, des physiciens. Vous voyez, la plupart protestants, et au fond, beaucoup matérialiste. Alors à la fin, il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dire ceci, que la physique est spirituelle, mais le physicien ne regarde que la matière. J'ai beaucoup aimé ça. La physique est spirituelle comme science. C'est évident, c'est une science de l'intelligence, de la raison. Elle est spirituelle. Vous ne trouverez jamais au bout de vos recherches physiques, la physique comme science. Elle regarde la matière, mais elle est spirituelle, elle est un habitus de l'esprit, une disposition de l'esprit. Il faut déjà avoir dépassé pas mal de choses pour dire ça. C'est une disposition vers quelque chose d'autre. Donc, quand vous posez la question « En quoi est l'être ?», vous dites « cette interrogation n'est pas juste en philosophie première. Parce que l'être ne peut pas avoir comme principe propre la matière. Pourquoi ? Parce que le principe propre de l'être, à l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?», on a découvert la substance comme principe selon la forme, source de toutes les déterminations. L'être est premièrement déterminé. Voyez, si la substance, comme la scolastique décadente, la définit, si la substance est sujet, le sujet, c'est ce qui est indéterminé et qui permet d'être déterminé par les autres choses. Alors, à ce moment-là, on est conduit à dire, mais oui, il y a une potentialité radicale dans l'être. Et donc, la matière, elle est dans l'être. C'est pour ça que la scolastique décadente ne permet pas de lutter contre le matérialisme. Pourquoi des quantités de théologiens veulent faire une théologie à partir de Marx? Ils sont quand même assez nombreux, hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans la scolastique décadente. Ils ont identifié la substance avec le sujet. Occam a fait ça. Et si je suis occamien, je ne peux pas me défendre contre le matériel. Oui, il faut bien saisir ces liens pour voir comment, de fait, on est arrivé à cette position que le matérialisme a pénétré dans l'Église, dans la pensée des théologiens. Qu'on ne peut pas nier ça. C'est un fait. Pourquoi ça? Parce que, de fait, il n'y avait plus de métaphysique. La métaphysique de la substance n'était pas saisie. On est resté dans une logique, le primat du sujet. Et le sujet, s'il est premier, implique la potentialité. Et la potentialité, si elle est première, implique la matière. Pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent que Gilson, je prends lui parce que c'est un exemple. Pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent que Gilson affirme que la distinction matière et forme est la distinction fondamentale de l'aristotélisme? En ce sens-là, il donne la main aux marxistes. Les marxistes sont revenus à Aristote, mais l'Aristote de la matière et de la forme, pas l'Aristote de la philosophie première. Et l'Aristote de saint Thomas, ce n'est pas l'Aristote de la distinction matière et forme qui commande toute la philosophie. Saint Thomas a compris que Aristote, c'était le philosophe de la finalité, avant tout. Donc il faut bien saisir ça. Et c'est pour ça que je vous disais en dernier lieu, comprenons bien que la distinction matière et forme est la distinction de ce qui est mu et non pas de ce qui est. Donc c'est une distinction très importante pour tout le monde physique, pour tout notre monde physique, mais ce n'est pas la distinction qui commande toute la philosophie. Elle commande toute la philosophie du côté génétique. Oui, du côté génétique. Parce que du côté génétique, qu'est-ce qui est connu en premier lieu? C'est le devenir. À travers le travail. La première expérience que vous avez, la plus fondamentale qui est en vous, c'est le travail. La plus lourde. Vous arriverez au ciel en disant tant d'heures de travail, combien d'heures de prière. Tant d'heures de travail. Je boulonne, c'était la réflexion. C'était très très joli, je me souviens. C'était près de Paris, dans la banlieue de Paris. et le doyen de Villeneuve-Saint-Georges. Villeneuve-Saint-Georges, oui, la banlieue rouge. Hein. Le doyen de Villeneuve-Saint-Georges est arrivé au café. Il a dit, qu'est-ce que vous avez fait ce matin? Oh, c'était merveilleux. Qu'est-ce que vous avez eu? Le père, il vous a parlé de quoi? De la prière. Et on a prié ensemble. Alors, le doyen, arrivant, un homme d'efficacité. Ah, mais non, il faut poulonner. Alors, ils ont répondu, on poulonne toute la semaine, nous. Et on sait ce que c'est. Le dimanche, on veut prier. Le doyen. Oh, c'était extraordinaire. C'était très beau de voir cette réaction violente de ces hommes qui poulonnaient. Hein. On voit très bien. Il suffit de les regarder sur le chantier. Ils poulonnaient toute la semaine. Le dimanche, on veut prier. Et le doyen qui boulonnait le dimanche. Le doyen, il faut boulonner. Non, on veut prier. C'est voyez, ça c'est la réaction saine. Le travail comme tel ne nous rend pas nécessairement spirituels. C'est la première expérience matière et forme. Et le travail nous donne le sens de la matière et de la forme, ça c'est sûr. Mais le travail comme tel ne nous rend pas contemplatifs. Alors si on met toute l'humanité au travail, on les abrutit. Il n'y a plus de dimanche. Il n'y a plus le jour du Seigneur. Il n'y a plus l'adoration. Il faut comprendre ça, mais viscéralement. Et comprendre que le travail, il faut que le travail soit sanctifié. Ne travaillez pas seulement pour le pain quotidien, Jésus dit ça. Ne soyez pas uniquement des travailleurs. Travaillez pour le pain, la nourriture que vous donne le Fils de l'Homme, l'Eucharistie. À ce moment-là, c'est relativiser radicalement le travail en face de l'Eucharistie, qui est le silence de Dieu qui nous est donné. C'est le repos de Dieu qui nous est donné. Et entrerons dans le repos de Dieu, le repos du Seigneur. C'est la contemplation. C'est pour ça que cette question est si importante. En quoi est l'être? Et je voudrais que ça, votre esprit se tape sur le mur, là. Hein. En quoi est l'être? Et on comprend que oui, l'être est premièrement détermination. Et non pas matière. Et non pas sujet, et non pas un inconnu. On irait très loin, vous savez, maintenant, parce qu'on verrait que même la tradition religieuse de l'Inde n'a pas dépassé ce mur. C'est ce que me disait un orthodoxe, un moine orthodoxe, roumain, qui avait été dans l'Inde, et qui me racontait comment il avait vu à la pleine lune, tous religieux se plongeaient dans le Gange pour se purifier. Et lui, qui était un Européen modernisé, tout en étant moine, lisait un livre de physique. C'est lui qui a raconté ça. Un livre de physique moderne, en voyant tous ces hommes, ces femmes religieuses se plongeaient dans le Gange à la pleine lune pour se purifier. S'il y avait un contraste, il l'avait fait exprès du reste, pour mieux comprendre. Il était passé 2 mois là-bas, même plus, un certain temps, et il me disait, la contemplation de la plupart de ces hommes, de ces femmes, reste à la cheville de la contemplation chrétienne. Parce que on reste dans un panthéisme. Et si on reste pas toujours, il y a des vrais contemplatifs dans l'Inde. Mais la plupart du temps, ça reste dans un panthéisme. Alors si ça reste dans un panthéisme, distinction matière et forme. Oui, c'est ça qui est très très important. C'est la distinction matière et forme. Elle est vraie pour tout ce qui devient. du devenir, c'est une autre distinction. Et je divise l'être en substance, cause selon la forme de ce qui est, et qualité. Donc, pas de principe propre de la matière dans ce qui est en tant qu'être. L'être pénètre dans la réalité existante par le comment. La substance est individualisée par la quantité et par la matière. Et c'est là la scolastique décadente a fait entre la recherche du ti, esti et du pos. C'est très très important ça. Le qu'est-ce. Le quelqu'un comme Auguste Comte dira la recherche du pourquoi. Et la recherche du comment. Ici, c'est pour les adultes. Le positivisme ne cherche plus que les comment. Et c'est vrai, faites attention, que de fait, constamment, quelqu'un qui était à l'ONU me disait « Toutes les interrogations de l'Amérique et de l'Europe, c'est le comment. Toutes les interrogations des Asiatiques et de l'Inde, c'est le pourquoi. » C'est intéressant, le partage, disons, comme ça. Vous pouvez mettre l'Afrique. L'Afrique non contaminée. C'est la recherche du pourquoi. Pourquoi. Le tiesti. Et le pose. Alors, voyez, cette sécularisation, comment s'est fait-elle? C'est que de fait, la théologie cherche le comment. Mais elle est portée par la foi qui nous donne le pourquoi. Le jour où vous sécularisez la théologie, vous n'êtes plus qu'en face d'un comment. Ça, c'est aussi très curieux à remarquer. Vous ne recherchez plus que le comment, identifié au tiesti. Vous voyez tout de suite, la substance est individualisée. Voilà le comment. Comment existe-t-elle? Elle est individualisée. Or, en tant qu'individualisée, la matière est présente. La matière s'introduit en métaphysique par l'individuation. C'est le comment de ma substance. C'est le comment de l'âme. Comment l'âme humaine existe-t-elle dans le corps? Et le corps est matière. Et donc, il faut bien saisir et bien comprendre. Ça remarche. C'est le comment, ça. Mais de temps en temps, le pourquoi s'éteint. Vous voyez l'importance du comment. Alors, si je me place de ce point de vue-là, de l'efficacité, le comment est premier. Et le pourquoi est second. C'est très vrai dans l'ordre de l'efficacité, le comment est premier. comment vous allez allumer une grosse machine. Il y a la méthode. La méthode, c'est du comment. La finalité, elle passe par le comment. Dans l'ordre génétique, le comment est premier d'une certaine manière dans l'efficacité. Dans l'ordre génétique, la puissance est avant l'acte, ce que nous allons voir. Dans l'ordre de perfection, alors l'acte est premier, la finalité est première. Et donc la distinction matière et forme n'est plus la distinction capitale, radicale. Elle est uniquement une distinction au point de départ. Bon, j'espère que ça vous comprenez. Il faut à tout prix arriver à le saisir. Tout le monde peut le saisir, ça. Et en saisissant cela, vous échappez au matérialisme. Votre intelligence se libère du positivisme. C'est quand même fameux, ça. Cette libération de cette prison dorée que représente le positivisme, que représente le primat des sciences modernes et le primat de la technique. Nous allons maintenant poser la question. Ayez tout toujours devant vous. Le TST. Première interrogation. Qu'est-ce ? Deuxième interrogation. En quoi ? Troisième interrogation. D'où ? L'origine. D'où cela vient ? La marque de fabrique. Tout de suite, vous regardez d'où ça vient. Une montre, marque de fabrique. Manet. Ça vient de la France, ça vient de l'Angleterre, ça vient de... Et c'est toujours en anglais. L'origine. L'origine. C'est très curieux. Puis quatrième question. En vue de quoi ? Alors, lorsqu'elle est séparée du coup. Alors, c'est la finalité. Alors il faut comprendre ça d'une façon critique, d'une façon très subtile. Mon intelligence est liée au sens. Mon intelligence n'est pas séparée des sens. Elle est liée à l'expérience. Et c'est pour ça que ce sont les plis fondamentaux de l'intelligence. L'intelligence interroge. Le chien de chasse, on veut savoir. On veut savoir. Alors pour chacun d'entre nous, je ne vous connais pas assez pour dire « c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Pour chacun d'entre nous, il y a un sens lié à l'intelligence plus développée. C'est ça l'originalité d'une intelligence. Pour chacun d'entre nous. Les uns, c'est la vue. Il faut le savoir. Il faut avoir suffisamment conscience de son intelligence pour savoir que mon intelligence est plus liée à la vision, plus liée au toucher, plus liée à l'odorat, plus liée à l'ouïe. Et vous savez, par le fait même, les mises en vedette de telle ou telle causalité. C'est important de se critiquer soi-même, philosophiquement parlant, de découvrir la sonnette d'alarme. Pour moi, c'est la cause formelle en premier lieu. Pour certains, je dis pour moi, pour vous, je ne vous demande pas de lever la main, parce que ce ne serait pas juste. Puis alors, il y en aura un qui lèvera la main 4 fois. Alors, il y a en dernier lieu la cause exemplaire, qui est une cause très particulière, qui n'est pas une cause qui divise l'être, cause qui divise le travail, le fait gérer. Alors 5, sur le modèle de quoi? L'interrogation sur le modèle de quoi? Oui, toute la question du travail, on le reverra en travail. À propos de tout, dès que vous analysez le travail, immédiatement sur le modèle de quoi? C'est l'artiste, si vous voulez. Alors un modèle intérieur ou un modèle extérieur. Avant d'avoir digéré tous les modèles extérieurs, vous voyez, ou alors on n'a plus qu'un modèle intérieur. Claudel, quand il dit « je n'ai subi aucune influence », le modèle est purement intérieur. C'est l'idéal. Mais avant de dire ça, il faut subir beaucoup d'influence. Il faut dépasser ces influences. Mais pour chacun d'entre nous, il y a une cause qui domine. Alors je me pose la question maintenant. D'où vient l'être? D'où ce qui est? D'où ce qui est? En tant qu'être. Alors posez-vous la question. Loyalement. D'où? Le premier qui a répondu dans l'ordre historique, Parménide, le poème de Parménide. Il faut tous avoir lu en première année le poème de Parménide. C'est le grand poème métaphysique inspiré, présocratique, qui est remis en lumière pour nous avec Heidegger. Il faut avoir lu, je ne dis pas le commentaire de Heidegger qui n'est pas juste, mais qui est très intéressant. Il est platonicien. D'où vient l'être? Parménide dit, l'être est inengendré. C'est très beau comme réponse. L'être est inengendré. Ce qui est comme tel n'est pas dans le temps. Est inengendré. dépasser ça. Pas dépasser la foi, non, non. Mais à dépasser cette première réaction chrétienne. C'est là où on dira métaphysique chrétienne, voyez. Alors, comprenons bien l'interrogation. Quand je pose tout ce qui est en tant qu'être, je suis dans l'ordre de l'analyse. Je suis dans l'ordre de la recherche inductive des principes propres et des causes propres de ce qui est en tant qu'être. Et je dis qu'il n'y a pas de cause propre, efficiente de ce qui est comme tel. Ça, c'est bouleversant, du reste. Une fois qu'on l'a bien compris, il y a une cause ultime de ce qui est au point de vue d'efficience, la création. Mais n'est pas une cause propre de ce qui est comme être. Pourquoi ? Parce que la cause efficiente, où est-ce que vous la saisissez, la cause efficiente ? La cause efficiente, vous la saisissez quand vous grattez et que vous prenez des notes. Hein ? Vous la saisissez tout le temps, la cause efficiente. Parce que dès que vous vous arrêtez, ça ne continue plus. L'archange ne continue plus de donner noter à votre place. Ça, c'est dans les légendes dorées. Soyez obéissants. Dès que la cloche sonne, vous arrêtez et votre ange continue. Ça a pu arriver. Rien n'est impossible. Mais ordinairement, c'est pas ce qui se passe. Et ne vous scandalisez pas. C'est pas ce qui se passe ordinairement. Vous arrêtez d'écrire, la cause efficiente s'arrête. Vous saisissez la cause efficiente à l'égard du devenir. Vous balayez cause efficiente. Même quand vous avez un instrument très perfectionné, très sophistiqué, qui est l'aspirateur. Mais l'aspirateur aspire la poussière. Tandis que quand vous avez un balai, vous poussez. C'est deux spiritualités différentes. Tout à fait différente. Vous aspirez la poussière. Il y a des gens qui aspirent les poussières comme ça. Ils sont des aspirateurs et puis ils prennent tout ça. Tous les microbes, ils les prennent. Je ne sais pas comment ils font, mais comme ça. Tandis qu'il y en a au contraire qui les poussent. Ouais. Le geste du balai, fait, allez, va-t'en te coucher. Et toutes les araignées que vous prenez avec la poussière, allez, va-t'en te coucher. De l'autre côté, on les aspire. Il y a la causalité efficiente qui pousse et la causalité finale qui aspire. Et ça, c'est purement artificiel. Hein. Purement. Normalement, la cause efficiente, elle se réalise dans le devenir. Au point de vue de l'être, est-ce que on engendre l'être ? Est-ce que l'être est engendré ? Au sens strict, est-ce que l'être est engendré ? Est-ce que l'être est au terme d'une opération du devenir ? Oui, d'une certaine manière, dans le monde physique, le devenir aboutit à quelque chose qui existe, mais pas directement. Jamais directement. Dans le monde physique, le devenir aboutit à la forme qui est création n'est pas cause propre de ce qui est. Je ne saisis pas la création à partir d'une analyse et d'une induction. La création est saisie à partir de la res, au sens de saint Augustin, la res, c'est Dieu.